When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast faits divers du Parisien.
Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui.
Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété.
Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce
soir. Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel.
Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien.
Bonjour Claudia.
Aujourd'hui dans Crime Story, l'histoire d'Ivan Keller, le tueur à l'oreiller.
Côté pile, un petit cambrioleur devenu jardinier, mais côté face, un redoutable tueur en série qui aura endormi la justice pendant des années.
Mulhouse, 1993. Comme chaque nuit depuis quelques années, Daniel S. patrouille dans les rues de la ville. Il est policier en Alsace, à la brigade anticriminalité, la BAC, une unité spécialisée dans les flagrants délits. Quand on tourne toutes les nuits dans la même ville, il n'y a pas que les lieux qui deviennent familiers. Certains visages aussi. Cette nuit-là, Daniel S. et son équipage croisent une vieille connaissance. Il faut dire que l'homme ne passe pas inaperçu. François de Nicolo, ancien videur de boîte de nuit, pèse 115 kilos et chacune de ses phalanges porte un tatouage. Le colosse a aussi un casier judiciaire garni. Un braquage dans un bar tabac PMU de Münster où il a volé des tickets de jeu et qu'il a amené en prison pour quelques années. Daniel S. le sait. Alors il décide de contrôler François de Nicolo. Nicolo ne se rebelle pas mais râle. « Vous embêtez des gens comme moi au lieu d'arrêter les cambrioleurs et tueurs de vieilles dames », lâche-t-il. Daniel S. a beau avoir l'habitude, la phrase le fait tiquer. François de Nicolo en a trop dit, ou pas assez. Il veut en savoir plus. Est-ce qu'il parle de quelqu'un en particulier? L'ancien videur ne se fait pas prier. Il lâche un nom et il raconte. Il dit que petit, il était en classe avec un certain Ivan Keller. Ils sont restés en contact toutes ces années. Et ces derniers mois, Ivan Keller lui a demandé plusieurs fois de lui servir de chauffeur, la nuit, pour l'aider à commettre des cambriolages. François de Nicolo jure qu'il s'est contenté de rester dans la voiture et qu'il n'accompagnait jamais son camarade sur les lieux. Il l'attendait, parfois pendant plusieurs heures. Après quoi, Ivan Keller le remerciait, en lui donnant 500 ou 1000 francs, sans rien lui dire de plus. Pendant un temps, ce manège a fonctionné, sans qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la mécanique. Mais François de Nicolo a commencé à se poser des questions après la mort d'une voisine de sa mère. Il l'avait désignée à Ivan Keller comme une proie facile pour un cambriolage. Elle avait de l'argent et elle vivait seule. Curieusement, peu de temps après, cette voisine a été retrouvée morte chez elle. Et surtout, son argent, ses économies, avaient disparu. François de Nicolo en est désormais certain. Ivan Keller ne se contente pas de cambrioler les maisons des vieilles dames. Il les tue aussi. Daniel S. est surpris. Recueillir en pleine nuit une confession aussi spontanée à l'occasion d'un banal contrôle, ce n'est pas du tout habituel. Il ne sait pas trop quoi faire de ce témoignage. Doit-il le prendre au sérieux? En tout cas, cette rencontre avec De Nicolo reste gravée dans sa mémoire. Et quelques mois plus tard, ce souvenir ressurgit. Damien, nous sommes alors au printemps 1994 et Daniel S. est chez des amis.
Oui, à Brunhaupt-le-Haut, alors c'est dans la banlieue de Mulhouse. S, il n'est pas en service et pourtant la discussion s'oriente sur un sujet assez macabre. La femme de ce couple d'amis qu'il reçoit raconte que trois femmes âgées sont mortes dans la même commune et surtout dans la même rue en l'espace de trois mois. Il y a Marie, morte le 21 janvier 1994 dans la nuit, dans son lit. Elle avait 82 ans et le médecin a diagnostiqué une crise cardiaque. Rien d'anormal, donc il a signé le permis d'inhumer, c'est-à-dire qu'elle a été enterrée sans autopsie.
Pareil pour Ernestine, qui est morte le 12 mars de la même année.
Elle avait 86 ans. Là encore, le médecin conclut à une mort naturelle. Pourtant, il y a deux bizarreries, en tout cas deux détails un petit peu troublants. D'abord, son fils, à cette dame qui va remarquer qu'une grille d'aération qui donne sur l'extérieur a été bougée. Donc, il s'en étonne. Et surtout, il manque 30 000 francs qu'elle avait gardés chez elle et qu'il ne retrouve pas après le décès de sa mère. Mais par ailleurs, il n'y a pas de traces de désordre, la maison ne semble pas avoir été fouillée, il n'y a pas de traces d'effraction, on n'a pas défoncé une porte, on n'a pas cassé une fenêtre. Donc là encore, le décès d'Ernestine, il est considéré comme une mort naturelle.
La troisième femme, c'est Augusta, et elle meurt le 29 avril 1994.
Elle avait 77 ans. Il va y avoir là aussi un autre élément troublant, c'est que sa carte bleue, sa carte bancaire a été subtilisée et utilisée après son décès. Donc ça ne peut pas être évidemment elle qui l'a utilisé, ça veut dire que quelqu'un lui a tout simplement volé. Mais les enquêteurs, au lieu d'imaginer la présence d'un voleur ou d'un cambrioleur, eux ils vont penser que ce larcin a eu lieu au sein même de la famille et les soupçons vont même être portés sur le petit-fils d'Ernestine qui va évidemment démentir tout ça, mais ça va être l'explication qui va être gardée par les gendarmes, plutôt celle d'un familier qui prend la carte bleue de sa grand-mère qui est morte.
Dans le salon de ses amis, lorsqu'il entend tout ça, Danielès repense immédiatement à François de Nicolo et à cet échange nocturne dans les rues de Mulhouse où il était question d'un tueur de vieilles dames. Le policier ne cogite pas longtemps. Il ne peut pas enquêter lui-même. Alors quelques heures plus tard, il pousse la porte de la gendarmerie de Tannes, la brigade dont dépend Burnopt Le Haut, et livre son témoignage. Le tout est consigné sur un procès-verbal. Danielès ne le sait pas. Mais il n'est pas le seul à douter du caractère naturel de ces trois décès. Les familles des victimes ont de sérieux doutes. C'est quand même curieux que Marie, Ernestine et Augusta soient toutes les trois mortes la nuit et dans un lit aux draps parfaitement tirés autour d'elles, comme si elles ne bougeaient pas dans leur sommeil, ou comme si elles étaient mortes seulement quelques minutes après être allées se coucher. Burnopt-le-Haut est un petit village alsacien situé entre Mulhouse et Belfort. Les habitants, environ 1200, sont souvent installés là depuis longtemps. Ils se connaissent et apprécient le calme dans lequel ils vivent. Alors trois décès en trois mois dans la même rue, ce n'est pas banal. Dans la presse locale, ces morts qualifiées de suspectes font la une. Le journal télévisé de France 3 Alsace, daté du 3 mai 1994, parle même d'une psychose.
Malgré ce calme apparent, depuis quelques jours, le doute et la suspicion se sont installés ici, à Burnopt-le-Haut. Personne ne croit plus au hasard, ni à la loi des séries.
Mais contre toute attente, on en reste là. La piste Yvan Keller, que le policier de la BAC a soufflé aux enquêteurs, n'est pas creusée. Pourtant, il suffit de consulter le fichier des antécédents judiciaires pour s'apercevoir que le nom d'Yvan Keller ne tombe pas de nulle part. Il a été condamné pour le cambriolage et l'agression d'un antiquaire commis en 1982 dans la même région. Et en 1991, deux sœurs, qu'il avait engagées comme jardinier à sa sortie de prison, se sont fait voler de l'argent et l'avaient dénoncé. Sans suite. Mais les gendarmes classent à nouveau l'affaire. Les trois retraités de Burnopt-le-Haut sont pour ainsi dire mortes de leur belle mort. Le village retrouve son calme, Danielès reprend ses patrouilles de nuit dans Mulhouse. Cette année passe. En 2000, François de Nicolo, encore lui, pousse les portes de la gendarmerie de Strasbourg. Il veut parler, et toujours d'Yvan Keller. Damien, cette fois, François de Nicolo agit en quelque sorte de manière spontanée.
Oui, la première fois, on peut imaginer qu'il ait inventé une histoire au cours d'un contrôle de police pour en quelque sorte détourner l'attention ou alors pour balancer une information en échange de quelque chose, de la tranquillité ou en tout cas que, voilà, que les flics cherchent ailleurs que sur lui. Là, la démarche, elle est beaucoup plus franche. Il a strictement rien à se reprocher. Et les gendarmes de Strasbourg sont d'ailleurs un peu surpris de sa présence volontaire dans leurs locaux et de la raison qui l'amène jusqu'ici.
Entre-temps, François de Nicolo a refait un séjour en prison.
Oui, entre l'année 1993 où il dénonce pour la première fois Yvan Keller à Daniel S. dans les rues de Mulhouse et l'année 2000 où il pousse les portes de la gendarmerie de Strasbourg, effectivement, François de Nicolo, il a repassé plusieurs mois en prison pour des vols.
Pourquoi est-ce qu'il décide d'aller dénoncer son ami ?
il va fournir une explication assez curieuse aux gendarmes. Il va leur expliquer qu'il a une maman qui est âgée et qu'il a peur qu'Yvan Keller, qui d'après lui s'en prend aux vieilles dames, bah, cible sa mère. Alors, c'est en plus étonnant de la part d'un type qui a quand même une carrure de boxeur, qui est videur de boîtes de nuit et qui semble totalement terrorisé par Yvan Keller, qui est physiquement pas un gringalet, mais qui est en tout cas beaucoup moins costaud que François de Nicolo.
Cette fois-ci, en 2000, la section de recherche de Strasbourg ouvre une enquête.
Pour la première fois, on se dit que ces signalements sont pris au sérieux. Une information judiciaire est ouverte au tribunal de Saverne pour 6 cambriolages qui ont été perpétrés dans le Bas-Rhin. Les gendarmes enquêtent sur Keller puisqu'ils ont son nom et sur d'éventuels complices. Mais bizarrement, le vendredi 30 mars 2001, l'enquête est close et à peine un mois plus tard, le juge d'instruction clôture la procédure par un non-lieu. Il n'y a pas, selon lui, de preuves suffisantes pour incriminer le jardinier.
Yvan Keller vient encore de passer entre les mailles du filet.
Oui, la justice l'a raté, elle a abandonné assez vite, mais certains ne l'oublient pas. Et 10 ans après que le nom de Keller a été prononcé dans une rue de Mulhouse, il va à nouveau raisonner.
Le mardi 24 juin 2003, c'est cette fois-ci le frère d'Yvan Keller qui se rend à la brigade criminelle du commissariat central de Mulhouse. Il dit avoir de graves révélations à faire. Pierre Keller, la cinquantaine, est très excité à l'accueil de l'hôtel de police. Denis Masson, enquêteur à la brigade criminelle de Mulhouse, le reçoit dans son bureau pour tenter de le calmer. Difficile. Pierre Keller ne tient pas en place. Il fait les 100 pas, parle tout seul, tient des propos relativement incohérents. Il finit par expliquer aux policiers qu'il vient dénoncer des crimes. Son ancienne compagne, une certaine Marina, a été la maîtresse de son petit frère, Yvan Keller. Et Pierre affirme qu'ensemble, ils ont tué des vieilles dames dans leur sommeil pour leur voler leurs économies. Il va même plus loin en décrivant un procédé. D'après lui, Yvan Keller entre dans les maisons par les grilles d'aération. Il se rend ensuite dans les chambres des personnes âgées qu'il a repérées préalablement et étouffe ses proies avec leurs oreillers. Pierre Keller peut dénoncer au moins 2 meurtres dans la région. En faisant des recherches sur Yvan Keller, l'enquêteur Denis Masson se voit confirmer le pédigré du suspect et son passé judiciaire. Il fait également des vérifications sur les 2 meurtres dont parle Pierre Keller. Et il constate que pour l'un d'eux, une enquête avait bien été ouverte. Un membre de la famille de la victime avait été interpellé et il était passé aux aveux. Il se dit que l'affaire est donc close. Sauf que, Damien Delceni, un autre policier conseille à l'enquêteur de contacter Daniel S., qui est parti à la retraite entre-temps.
Oui, et donc Masson va contacter son collègue retraité, et Daniel S. se souvient évidemment de Yvan Keller et des confidences étranges de son ami sur un trottoir de Mulhouse en 1993. Il se souvient aussi qu'il avait signalé le nom de Keller aux gendarmes quelques années plus tard. Une enquête préliminaire est donc ouverte. Les enquêteurs vont retrouver sans effort la trace des 2 précédentes dénonciations et convoquent François de Nicolo pour l'entendre à nouveau.
Et de Nicolo confirme.
Bien sûr. Et avec des détails supplémentaires, dès 1992, je me suis posé des questions, dit-il aux policiers. Yvan Keller flambait au jeu au casino de Niederbronn-les-Bains près de Strasbourg et sur les champs de course. Des sommes très importantes, parfois plusieurs milliers d'euros par jour. De Nicolo, il ne peut pas ignorer tout ça puisqu'il jouait le rôle de chauffeur pendant que Yvan Keller était censé cambrioler des maisons. Simplement, un jour, il lui a dit qu'il venait plus avec lui. Et il dit, Yvan, il m'a relancé à plusieurs reprises. Il me dit, j'ai refusé. Et c'est là que je l'ai menacé de le tuer s'il touchait à ma mère. Et il a compris et j'ai perdu contact avec lui pendant 15 ans. Ça, c'est ce que De Nicolo explique aux policiers. Mais il dit, je continuais à avoir des échos de ce qu'il faisait par des connaissances. Et en gros, il dit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient au courant des agissements d'Yvan Keller.
De Nicolo confirme les faits dénoncés par Pierre Keller et il ajoute 3 nouvelles victimes potentielles à la liste.
Toujours dans la région, hein, 1 à Mulhouse et 2 à Wittenheim, qui est juste à côté de Mulhouse. 3 faits qui sont prescrits, c'est-à-dire qui sont très anciens. Mais soudain, les enquêteurs ont comme l'impression de mettre en ordre un puzzle criminel dont les pièces étaient sous leurs yeux depuis des années. Et il y a autant de pièces que de victimes. Alors, ils n'enquêtent plus juste sur un voleur, un cambrioleur qui flambe au casino, mais sur un tueur.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Yvan Keller, le tueur à l'oreiller. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.